Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous dans Talk Show avec aujourd'hui un invité qui s'appelle Clément Veil-Rénal, journaliste spécialiste des affaires judiciaires. Il a écrit notamment plusieurs ouvrages comme par exemple l'enquête sabotée, la rue Copernic, et il sort un dernier ouvrage, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Clément Veil-Rénal.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour, heureux de vous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg. La gauche est-elle antisémite? C'est une question saugrenue.
Non, ce n'est pas une question saugrenue, c'est une question d'actualité. Alors bien entendu, toute la gauche n'est pas antisémite, mais c'est vrai que les événements récents, et ceux depuis le 7 octobre, ont effectivement laissé apparaître, effectivement, ont permis de laisser émerger une extrême gauche antisémite de manière virulente, même si elle use beaucoup du mode allusif, hein, bien entendu, il n'y aura jamais des attaques directes nommément contre les juifs, mais cette extrême gauche regroupée et principalement autour de la France insoumise, d'une part prend de l'importance, et puis aussi, on voit que la gauche social-démocrate, elle, d'une part est réduite à la portion congrue, et puis, et tout en étant réduite à la portion congrue, le constat que je fais depuis des années, c'est qu'elle fait preuve d'une complaisance et d'une faiblesse vis-à-vis, effectivement, de cette extrême gauche, notamment sur la question de l'antisémitisme, et qui explique, entre autres, cette montée de la haine anti-juive, alors, du discours anti-juif dans le discours politique.
Alors, cette haine, elle était déjà présente, et elle s'est développée, ou c'est quelque chose qui est né il n'y a pas très longtemps, avec le 7 octobre ?
Non, justement, ce que je m'attache à retracer dans mon livre, c'est que cette flambée d'antisémitisme dans le discours politique, mais aussi sur le terrain, dans la rue, ne date pas du 7 octobre. Je remonte dans le temps, si je puis dire, et à chaque époque, à chaque étape, on s'aperçoit que la gauche a un problème avec les juifs. Je vous rappelle que avant le 7 octobre, eh bien, il y a eu les années 2000, la seconde intifada, dont l'ensemble de la communauté juive se souvient, avec une déferlante de désinformation anti-israélienne qui s'est accompagnée un peu partout en France de violences anti-juives. Avant la seconde intifada, il y a les années Mitterrand avec un certain nombre de déclarations d'hommes publics, de François Mitterrand lui-même, au soir de sa vie et de sa carrière, et de tout son entourage. Je rappelle les dérapages de Roland Dumas, qui était l'un des personnages les plus importants de l'État, l'un des piliers du mitterrandisme. Il y a dans la même génération un homme, et je me suis attaché effectivement à dévoiler un certain nombre de pans de sa carrière qui était resté dans l'ombre. Je parle de Hubert Boeuf-Méry, le fondateur
du Monde.
Le journal Le Monde, le phare de la pensée de gauche en matière de presse. Hubert Boeuf-Méry est un monsieur, ça ne se sait pas trop, mais je me suis permis de réexhumer un certain nombre de ses écrits qui avaient été oubliés, ou plutôt mis aux oubliettes, avant-guerre. Hubert Boeuf-Méry fait preuve d'une étrange fascination, teintée là aussi de complaisance à l'égard du nazisme. Pendant la guerre, il n'a pas été le grand résistant qu'il prétend avoir été par la suite. C'est un résistant de la dernière heure. Il est au contraire l'un des cadres de Vichy et il fait preuve d'une animosité, sinon d'une certaine malveillance à l'égard des juifs pendant la guerre et également pendant la libération. Alors je soumets l'hypothèse que la dérive anti-israélienne du Monde, d'ailleurs c'est pas une dérive puisque on la constate dès ses origines, que l'hostilité du Monde à l'égard d'Israël n'est pas un accident.
Il n'y a pas que le Monde, vous dans le journal il y a aussi deux ou trois affaires concernant France Inter, un autre média.
Oui, j'avais oublié, ça c'est dans les années Intifada. On se rappelle des messages violemment antisémites, hein, prétendument antisionistes, mais qui dérapaient très vite et mettaient en cause les juifs du monde entier, les juifs de France, des messages qui ont été diffusés pendant la seconde intifada sur l'antenne de France Inter, une radio publique. Et alors ce qui est intéressant, et ce que je raconte, parce que j'ai eu accès au dossier, puis je me suis permis de retracer un peu, de voir quelles avaient été les réactions à l'époque, eh bien... On s'aperçoit, et c'est peut-être le plus symptomatique, le plus intéressant, c'est que quand ces dérapages se produisent, que ce soit sur l'antenne de France Inter ou que ce soit dans les colonnes du Monde, eh bien, il y a une levée de boucliers des âmes bien pensantes de gauche. Il y a un soutien, il y a un soutien de toute une partie de l'intelligentsia qui dit non, on ne doit pas condamner cet antisémitisme parce qu'il est fait au nom du soutien à la cause palestinienne. Et il y a d'ailleurs un déni tant des milieux intellectuels de gauche que de la justice aussi, des réseaux de magistrats qui refusent d'entrer en voie de condamnation quand cette gauche antisémite se manifeste, alors que la justice est bien sûr beaucoup plus vigilante, sévère et sourcilleuse lorsqu'il s'agit de dérapages constatés à l'extrême droite.
Alors Clément Vignal, vous parlez dans votre livre d'antisémitisme. Est-ce que on a déguisé ça par l'antisionisme ou l'antisionisme est plus condamnable que l'antisémitisme?
Non mais attendez, l'antisionisme, à mon sens, et je pense que beaucoup de nos auditeurs le partagent ce sentiment, l'antisionisme n'est qu'un paravent, un alibi pratique, mais pas très efficace finalement, un alibi pour masquer l'antisémitisme. Et à cet égard, je me permets de souligner dans l'ouvrage que les mensonges d'hier éclairent les mensonges d'aujourd'hui. Prenez par exemple l'affaire des procès de Prague en 1952, ou de ce qu'on appelle le complot des blouses blanches, un an plus tard, en 1953, en URSS. Que ce soit à Prague ou que ce soit à Moscou, les accusés, qui sont tous juifs, bien entendu, sont juifs dans une très grande majorité, sont accusés de complot sioniste. Et ce qui est intéressant, et je me suis donné la peine d'aller relire tout ça aux archives, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la presse communiste en France, la presse communiste francophone, relate ce qui se passe à Prague et à Moscou. Alors, ils expliquent effectivement, en souscrivant à l'accusation, bien sûr, ce sont des journaux de propagande, ils expliquent aux lecteurs français que oui, il y a bien eu un complot sioniste à Prague et qu'il y a bien eu un complot sioniste à Moscou, mais très vite, des journaux comme L'Humanité ou des journaux pour les intellectuels communistes comme La Nouvelle Critique ou comme Les Lettres Françaises, très vite, eh bien les éditoriaux et les tribunes dérapent. On attaque nommément les accusés en vertu de leur judaïsme. On dit à propos du procès de Prague, le juif Slansky, le bourgeois juif Slansky. Il y a donc, on voit très bien que cet antisionisme, on est dans les années 50, cet antisionisme de façade, s'exprime alors que la question palestinienne telle qu'elle est perçue aujourd'hui n'existe pas à l'époque. Et bien entendu, on prétend s'attaquer au sionisme avec un discours total de délégitimation. Israël à l'époque, alors c'est pas le pays qui opprime les Palestiniens, c'est la tête de pont avancée de l'impérialisme américain. Mais très vite, on voit dans la presse communiste française à quel point ça dérape sur le terrain de l'antisémitisme, d'un antisémitisme violent, de la mise en cause des Juifs, et ça n'a rien d'étonnant, parce que dans d'autres chapitres, je m'intéresse un peu au parcours et aux états de service des grands leaders communistes de l'époque. Je pense à Maurice Thorez, ou je pense à Jacques Duclos, et leur antisémitisme transpirait à chacune de leurs déclarations. On sait que Jacques Duclos détestait les Juifs, on se rappelle qu'il a traité dans les couloirs de l'Assemblée nationale Pierre Mendès France de petits juifs lâches et peureux. On se rappelle du pamphlet de Maurice Thorez écrit depuis Moscou pendant la guerre qui s'intitulait qui s'intitulait Léon Blum tel qu'il est. Un essai dans lequel on trouvait des injures anti-juives, des propos orduriers à propos de Léon Blum, on trouvait ça à chaque page. Voilà, donc parmi d'autres nombreux exemples, voilà tout ce que j'évoque dans mon livre sur la gauche antisémite. Alors, comme je le souligne, une haine qui vient de loin, c'est aux éditions de l'Artilleur.
Alors, très bien pour la pub. Je voulais vous demander, là, vous faites plusieurs exemples dans votre livre. Le choix était difficile, le choix était exhaustif ou pas?
Il n'est pas exhaustif. On aurait pu parler effectivement de cette, quand on aborde la question de la gauche antisémite, J'aurais pu parler également, parce que le livre, c'est quand même déjà, est un livre tout à fait
imposant,
qui fait déjà, je crois, 350 pages. Ouais. J'ai fait l'impasse sur Jean-Paul Sartre. J'ai fait l'impasse sur un cinéaste, Jean-Luc Godard, sur un écrivain, Jean Genet. On aurait pu en rajouter. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des dérapages antisémites, on voit aujourd'hui avec Mélenchon, on l'a vu il y a 20 ans au moment de la seconde intifada, avec Edgar Morin, à chaque fois, soit il y a d'abord une sorte de dénégation collective, une sorte de levée de bouclier général pour défendre effectivement ces bons soldats de la gauche qui se sont attaqués, paraît-il, au sionisme. Et puis quand c'est un peu trop voyant, on dit c'est un dérapage isolé, c'est un mouton noir, c'est quelqu'un qu'on va recadrer. Et dans mon livre, qui est une sorte de récit sur qui remonte dans le temps jusqu'aux origines du socialisme français, hein, ça remonte jusqu'à... on est sur au bas mot 150 ans. Alors c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que ces dérapages soi-disant isolés, eh ben, quand on les regroupe, hein, ce sont à chaque fois, on nous dit, des petites brindilles, mais ça forme, j'allais dire, un nid cohérent. On s'aperçoit effectivement, ben non, c'est pas isolé. À chaque époque, on retrouve des nouveaux éléments de langage, on trouve des nouvelles manières biaisées de s'en prendre aux juifs, mais quand on regarde, quand on se permet juste de dresser le panorama des dérapages anti-juifs sur 150 ans, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence de la pensée de gauche et que toute une partie de la gauche marxiste, la gauche doctrinaire, la gauche totalitaire, mais elle représente un courant important encore aujourd'hui en France, et bien que cette gauche nourrit une haine, une hostilité à peine dissimulée à l'égard des juifs.
Alors dans ce livre, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que dans les procès qui ont été intentés, vous dites souvent qu'il y a des juifs, les juifs de cour, les Ronny Broman, etc., qui viennent donner un coup de main aux accusés. Ça aussi, c'est très révélateur d'un climat en France au niveau de la justice.
Oui, comme je vous disais, il y a eu des procès retentissants. Alors, je m'y attarde un peu. Et puis, je ne parle pas en l'air. J'ai eu accès aux dossiers. J'ai eu accès précisément aux déclarations qui avaient justifié ces procès. Et je pense notamment au procès Mermet, au procès d'Edgar Morin, je pense à d'autres procès, hein, au procès contre Maurice Duverger, le grand juriste Maurice Duverger, qui était en fait un fief et collabo et un antisémite patent. Et alors ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que l'affaire est portée devant la justice par des organisations juives, d'abord on s'aperçoit effectivement qu'au niveau des ONG, il y a une sorte de silence organisé des ONG de gauche qui antiracistes qui ne veulent pas poursuivre dès qu'il s'agit de militants de gauche. Et puis quand ce sont des petites organisations juives qui portent ces dérapages, ces dossiers devant la justice française, eh bien on découvre à l'arrivée que les magistrats ont blanchi les prévenus, leur ont donné quitus et ont expliqué que ça n'était pas de l'antisémitisme, puisque précisément, ils ne faisaient qu'accabler le régime sioniste. Alors c'est intéressant, il se trouve que je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis à l'origine d'une affaire retentissante qui est celle du mur des cons du syndicat de la magistrature. Il y a en France, il faut le savoir, pour dire les choses rapidement, un tiers des magistrats qui adhèrent et qui sont affiliés à un syndicat de magistrats d'extrême gauche, dont on connaît les excès, les dérives et surtout le dévoiement qu'il opère de l'institution judiciaire en utilisant effectivement la justice à des fins politiques. Et c'est intéressant de voir que sur cette question de l'antisémitisme de gauche, il y a effectivement tout un réseau de magistrats qui font en sorte que les dossiers n'aboutissent pas. Alors je ne me contente pas de l'affirmer, c'est toujours très intéressant de mettre sur la table et les déclarations poursuivies et les motivations des magistrats. Comment est-ce que des magistrats peuvent blanchir, par exemple, Edgar Morin, qui publie dans Le Monde une tribune, mais qui est de manière évidente, éminente, qui est antisémite, puisqu'elle attaque non pas les Israéliens, non pas le gouvernement israélien, non pas les soldats de Tsahal, elle attaque les Juifs du monde entier. Des tribunes, des messages d'auditeurs à l'antenne, où on crie au complot d'un mystérieux et malfaisant lobby juif mondial, donc des déclarations antisémites, et brusquement, chaque fois qu'un certain nombre de personnes dans la communauté juive s'en indignent, vous avez une levée de boucliers, vous avez une campagne d'opinion, vous avez des pétitions de soutien, avec effectivement un certain nombre de personnalités juives qui sont enrôlées pour les circonstances, pour prendre la défense du fautif, et à l'arrivée, vous avez des magistrats qui disent « circulez, il n'y a rien à voir ».
Alors Clément Vérénal, pendant des années, on a cru que l'antisémitisme venait de la droite. Est-ce que ça aussi c'est un mensonge de la gauche créée de toutes pièces pour les délester de cet antisémitisme?
Non, mais bien sûr que l'antisémitisme de droite et d'une certaine extrême droite n'est pas à nier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est quand même, d'abord, ça n'est pas le sujet de mon livre, mais c'est un antisémitisme, effectivement, qui est un peu, si je puis dire, passé de mode, hein, qui est un antisémitisme résiduel, puisque c'est vrai que même l'extrême droite, hein, pour parler des choses, de manière très claire, le Rassemblement national a certainement subi une évolution de génération, a fait son adjournamiento, a fait d'une certaine manière un examen de conscience. Vous savez, l'antisémitisme d'extrême droite d'avant-guerre et dans les siècles qui ont précédé s'inspirait d'abord d'un antisémitisme chrétien, de l'accusation du peuple de l'accusation selon laquelle les Juifs étaient un peuple déicide. C'est vrai que cette histoire de crucifixion de Jésus, qui serait imputable aux Juifs, n'est pas un argument qui, dans un pays en pleine voie de déchristianisation, opère vraiment sur les consciences d'un point de vue collectif et sur l'opinion publique. À ceci près, qu'on peut faire une parenthèse, c'est que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, le peuple palestinien a remplacé d'une certaine manière Jésus. Il est devenu le peuple crucifié, si j'ose dire. Et puis en plus, l'antisémitisme d'extrême droite qu'on a connu à la fin du 19e siècle et avant-guerre stigmatisait un juif apatride, un juif lâche, un juif qui ne savait pas se battre. Alors effectivement, aujourd'hui, avec la renaissance de l'État d'Israël et la puissance affirmée et assumée de Tzahal, cette caricature de juif ne correspond plus tellement à la réalité. Et qu'aujourd'hui, on accuse en fait le juif du contraire, d'être un ultra-nationaliste, un soldat cruel et brutal. Et cette thématique, effectivement, est beaucoup plus prospère beaucoup plus facilement à gauche qu'à droite. Puisqu'à droite, encore, et même à l'extrême droite, le patriotisme, pour dire les choses rapidement, le patriotisme reste une valeur défendue par la droite et par l'extrême droite. Donc tous ces éléments, ce ne sont pas les seuls, expliquent l'évolution, effectivement, de cet antisémitisme qui, quand même, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en 2025, en tout cas sur la France, dans le paysage français, a un peu quitté les rivages de l'extrême droite et d'une certaine droite, et a quand même atteint les rivages de l'extrême gauche en contaminant une grande partie de la gauche aussi.
Dans tous les exemples que vous citez dans votre livre, est-ce qu'il y en a un qui vous semble représentatif des autres, que vous pourriez bien nous raconter? Qu'est-ce que vous trouvez dans votre livre qui est vraiment, on va dire, fort de café?
Alors écoutez, il y a plusieurs exemples. Je vous citerai deux exemples. D'une part, celui que j'ai cité tout à l'heure, je consacre trois ou quatre chapitres à la saga de Hubert Boeuf-Méry et de toute son équipe. J'ai cité Maurice Duverger. C'est intéressant de voir comment, dans toute l'équipe fondatrice du journal Le Monde, est constituée de personnes qui ont, pour le moins qu'on puisse dire, un sérieux problème avec les Juifs et un sérieux problème, effectivement, avec la collaboration, et ça pourrait expliquer l'hostilité aujourd'hui du monde. Je me suis même donné la peine d'aller... C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec la guerre de Gaza, avec la réécriture permanente de l'histoire par la gauche, on pourrait dire « Ah oui, mais il y a le problème palestinien, etc. » C'est intéressant, je suis allé voir ce qu'écrivait Le Monde en 1947-1948, alors que l'État d'Israël n'était même pas encore déclaré, que la guerre d'indépendance n'avait pas encore réellement commencé, et donc que le problème palestinien ne se posait pas. Et M. Hubert Boeuf-Méry, qui était à l'époque donc le fondateur du Monde, c'était un journal qui avait moins de pagination, et il s'honore d'ailleurs dans sa biographie de dire qu'il relisait c'était lui personnellement qui relisait la copie, il y a une hostilité sournoise et malveillante, pas seulement sournoise, parfois elle est explicite, dès 1947 à l'égard d'Israël. Donc je renvoie le lecteur à ces chapitres, c'est très intéressant de voir comment effectivement le monde qui réécrit l'histoire, aujourd'hui il utilise des éléments de l'actualité, mais cette hostilité, cette délégitimation permanente d'Israël en tant qu'État juif, elle est inscrite dans les gènes, dans l'ADN du monde, et on le retrouve dans les articles depuis 1947. Autre point qui moi-même a été une découverte lorsque j'ai mené cette enquête et que j'ai écrit ce livre, on dit souvent oui, à l'origine du socialisme français, il y a, une fois de plus, vous voyez, on nous fait croire qu'il y a quelques dérapages antisémites chez les premiers doctrinaires, chez les pères fondateurs du socialisme français. D'abord, ce ne sont pas quelques dérapages isolés, c'est un antisémitisme général et violent. Alors, une fois de plus, on réécrit l'histoire, on veut nous faire croire que tout cela, il faut comprendre le contexte de l'époque, c'est le début de la révolution industrielle, il y a la misère du prolétariat, alors effectivement, on aurait tendance à un peu faire des schémas un peu trop abusifs, simplificateurs, en opposant la richesse d'un baron de Rothschild à la misère, à la misère ouvrière. Ça n'est pas totalement vrai, parce que quand on regarde ce qu'écrivaient les premiers doctrinaires du socialisme français, je pense à Charles Toussnel, je pense à Toussnel, à Charles Fourier, à Régnard et plein d'autres encore qui sont amplement cités dans l'ouvrage. Ces auteurs, déjà à l'époque, s'emparent des théories raciales, racistes, de la biologie raciale qui est très en vogue dès le milieu du 19e siècle, 80 ans avant la prise de pouvoir par le nazisme. Ces théories raciales ne sont pas du tout une invention du nazisme. Le nazisme n'a fait que reprendre un certain nombre de fausses connaissances de l'époque, de croyances de l'époque qui étaient très en vogue. Et alors ces doctrinaires du socialisme français écrivent, et tous l'écrivent, accusent dès les années 1840-1850, accuse, je cite, la race sémite de pervertir le prolétariat arien. Vous voyez, c'est donc l'opposition des juifs sur le terrain racial à une population notamment ouvrière qui serait d'une pureté raciale qui est tenante de la race arienne, ça n'est pas une invention d'Hitler, ce sont des théories qui ont été largement développées par les théoriciens, par les pères fondateurs du socialisme français, et j'étaye mon propos dans le livre en citant de nombreux exemples. Et cette distinction raciale va très loin, puisque plus d'un penseur socialiste, Proudhon le premier, mais d'autres, prônent, une fois qu'ils ont expliqué effectivement cette opposition entre les juifs sémites et le prolétariat arien, prônent la suppression physique des juifs de manière collective, parce que ce sont eux qui empêchent l'avènement du socialisme et du paradis sur terre qui est son corollaire.
Clément Vérinal, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour qu'ils achètent votre livre? C'est quoi votre argumentaire?
Ben d'abord que c'est un livre qui se lit, bien que c'est un sujet grave, il se lit facilement. Ouais. C'est un livre qui apporte effectivement énormément d'arguments à ceux qui essayent encore de nier cet antisémitisme de gauche et qui essayent de faire croire qu'il ne s'agit que d'une critique légitime d'Israël. Alors, le lecteur, il trouvera des arguments étayés, plus que des arguments, il trouvera les pièces du dossier qui permettent de dire, de démontrer que cette critique d'Israël, cet accablement d'Israël aujourd'hui, n'est pas dissimule en fait bien souvent de l'antisémitisme, et un antisémitisme très violent, très mortifère. Alors juste un point, bien sûr qu'il est permis, on dit toujours, mais on a le droit de critiquer Israël, mais bien sûr, on peut critiquer, même, on est dans le pays, au pays de Voltaire, au pays de la polémique, on peut même critiquer de manière erronée, infondée, mais le problème, c'est que cette critique d'Israël, et là aussi, le lecteur trouvera de nombreux exemples, cette critique d'Israël n'est pas seulement infondée, elle est d'une part obsessionnelle, elle revient sans cesse, elle est irrationnelle, elle diabolise en permanence Israël, et puis comme par hasard, très vite, ça dérape non pas sur les Israéliens, comme je disais, mais sur les Juifs. Et ce sont les Juifs du monde entier qui sont mis en cause, et ce sont les Juifs de France qui sont diabolisés et présentés comme des fauteurs de troubles et comme les populations à, sinon à éliminer, du moins à neutraliser. Voilà où on en est, et c'est pour ça que je recommande la lecture de mon ouvrage.
Vous avez des projets, Clément Vérinal, après le livre? travaille sur quelque chose.
Écoutez, le livre est sorti il y a une quinzaine de jours. Ouais. Je le recommande. Je recommande à nos auditeurs. Je me permets de rappeler le titre. Hein,
oui, alors c'est clair. Hein, allez-y.
La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, aux éditions de L'Artilleur. Et je me ferai d'ailleurs, je passe par le canal de votre radio pour lancer cet appel, je me ferai un plaisir de venir à Strasbourg si un certain nombre de militants et responsables communautaires souhaitent organiser une rencontre et une conférence autour de ce thème.
Le message est passé, merci beaucoup. Clément Vérénal, on rappelle donc ce livre aux éditions de L'Artilleur, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, merci de votre accueil.
Merci à vous,
bonne journée, bonne soirée à tous les auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg.
Merci beaucoup.